ce dernier module sur le Microsoft Graph. Je m'appelle toujours Sébastien Pertus et on fait exceptionnellement un sixième module sur le Graph. Pourquoi ? Eh bien parce que entre le moment où j'ai enregistré les cinq premiers et aujourd'hui, eh bien il s'est passé la bulle, comme vous le savez sûrement. Si jamais vous n'avez pas vu la bulle, je vous conseille d'aller voir l'ensemble des sessions en replay à cette adresse ici que vous avez sur le côté. Et à cette bulle a été annoncé pas mal de choses autour de beaucoup de choses, mais si on parle d'Office et du Graph, eh bien il a été annoncé quelque chose de nouveau. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu les premiers modules, on va parler aujourd'hui du Graph Microsoft qui permet d'accéder à l'ensemble des données de votre entreprise, de votre tenant Office 365 via une API unifiée qu'on appelle le Microsoft Graph, qui va permettre de récupérer les utilisateurs, les contacts, les mails, les documents, les notes, les tâches, etc. etc. Tout ça d'une manière unifiée, quelle que soit la plateforme, quels que soient vos outils de développement et quelle que soit la cible. Alors, qu'est-ce qui a été annoncé pendant cette build? Eh bien, il a été annoncé la disponibilité du SDK .NET, du SDK Android et du SDK iOS pour le Graph. Aujourd'hui, si vous avez suivi les premiers modules, on a utilisé des SDK, mais pas vraiment pour le Graph, puisqu'on a tout fait à base de requêtes HTTP classiques. On a utilisé des SDK pour s'authentifier, mais pas pour utiliser le Graph, puisqu'on utilise directement les outils de requêtage HTTP. Eh bien, sachez qu'aujourd'hui, on va pouvoir utiliser un SDK qui va simplifier les appels vers le Graph. Alors, juste pour quelques informations, quelques pointeurs en tout cas pour retrouver toutes ces infos, sachez que vous avez un GitHub sur lequel, un nouveau GitHub qui a été créé qui s'appelle GitHub Microsoft Graph, sur lequel vous allez retrouver l'ensemble des SDK, donc c'est du open source, vous l'avez compris, et cette première version est disponible déjà sur un package Nuget que vous retrouverez en cherchant Microsoft Graph. J'ai aussi écrit un article sur le sujet, donc que vous pouvez retrouver sur mon blog, où finalement je vais un petit peu expliquer ce que l'on va voir ensemble pendant cette petite demi-heure. Alors, juste pour rentrer maintenant dans le détail, sachez que le SDK Microsoft Graph, lui, part du principe que vous êtes déjà authentifié sur la plateforme, donc il ne fournit pas de système d'authentification. Évidemment, nous, on va avoir besoin de s'identifier et de s'authentifier, voire de récupérer des autorisations. Eh bien, on va utiliser ADAL, donc qui est Azure Active Directory Library, qui est donc la stack classique qu'on utilise un petit peu partout, qu'on a déjà utilisé dans les précédents modules, et que l'on va attacher au Graph via une interface qui s'appelle e-Authentication Provider. Donc à partir de là, tout va rouler. Il y a juste cette étape-là qui est un petit peu particulière et on va la détailler ensemble. Donc sans plus attendre, on va passer dans la démo. Qu'est-ce qu'on va faire pendant cette démo? Eh bien, on va prendre l'exemple du deuxième module. Rappelez-vous, cette application UWP qui attaque le Graph, et on va juste la migrer pour utiliser le Graph SDK. Allez, on se retrouve côté code. Allez, c'est parti. Donc nous voici sur l'application Next Meeting, donc la version du module numéro 2. Et vous allez voir que la première chose qu'on va faire, eh bien, on va aller rajouter un package Nuget, qui est ce fameux package du Microsoft Graph. Alors, vous faites une recherche simple sur Microsoft Graph et vous allez voir que vous allez récupérer très vite le package qui est tout neuf. Enfin, il y avait déjà une première version qui datait de l'année dernière, mais qui n'était absolument pas maintenue. La version actuelle est complètement différente, refactorisée, et elle fonctionne plutôt bien, comme on va le voir ensemble. Donc, j'implémente tout ça et on va maintenant un petit peu nettoyer tout le code qui est derrière. Donc, on laisse s'installer. Voilà qui est fait. Je vais donc maintenant passer sur Graph Service et on va à quoi ça ressemble. On va faire une première méthode qui va être donc de récupérer mon profil utilisateur. Donc toujours pareil, on se doute qu'il va y avoir que c'est une méthode asynchrone. On va l'appeler donc task et là je vais récupérer, vous allez voir que Microsoft Graph, alors pour l'instant j'écris tout en entier parce que je vais avoir un conflit sinon avec l'objet user qui existe déjà. Donc je rajoute mon objet user, donc je l'enlèverai après une fois que je l'ai refactorisé. On va appeler ça getMe. Alors c'est une méthode que je vais utiliser pour récupérer mon profil, ça va me servir dans la suite de l'exemple. Et c'est aussi la première chose que je fais lorsque je me log sur l'application, je fais un getMe, ce qui me permet de finalement m'authentifier et de récupérer mon profil. Ouais, c'est quelque chose d'assez classique. Bon, l'objet qu'on va utiliser dans le graph, c'est graph service client. Donc je vais en déclarer une instance et vous voyez qu'ici, c'est là qu'il me demande ce fameux e-authentication provider. Donc pour l'instant, on va mettre nul et on va voir un petit peu plus loin ce qu'on va y mettre à la place. Donc nul, c'est non autorisé. Donc je vais mettre un petit to do ici parce que nul, ça ne fonctionnerait pas évidemment. Donc, supposons que nous ayons le bon provider, on va donc maintenant eh bien, appeler une méthode donc, qui est, on va dire, la plus simple aujourd'hui, c'est graphService.me.request. Donc, la request va me générer la requête et GetAsync va l'exécuter. On verra un petit peu plus tard que la méthode request a pas mal de paramètres, c'est une méthode, hein, c'est pas une propriété, donc on pourrait y passer des paramètres. On verra un petit peu plus loin pour récupérer mes informations, il n'y en a pas besoin. Alors, une bonne habitude à prendre, même si on ne l'a pas forcément fait dans les précédents exemples, c'est de mettre ça dans un try-catch, parce qu'on ne sait pas si tout va bien se passer. Le graphe, le SDK graph renvoie une service exception qui permet d'avoir un code d'erreur, etc. Donc, c'est la première chose que l'on catch quand l'on travaille le graphe, c'est cette fameuse service exception pour savoir si le graphe lui-même a eh bien, vu qu'il y avait une erreur particulière. Là, je fais un debug.writeline pour aller un petit peu plus vite. Sachez que lorsqu'on fait des méthodes asynchrones, ce qui est bien, c'est de passer un cancellation token et de gérer correctement la remontée de l'erreur. Voilà. Voilà, je récupère le code, je récupère le message et je l'écrirai dans la sortie console. Voilà. Et je ne remonte pas l'erreur à l'aplomb. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai donc un objet qui s'appelle user. On peut même aller voir la définition. Ah, il faut évidemment que je retourne ma valeur. Et là, je vais retourner nul, si jamais je passe dans le catch. Et ce que je vais faire ici, je vais stocker. Ah oui, j'ai oublié le wait, évidemment. Je vais stocker ici cette valeur de moi, mon profil, dans une variable statique. Ce qui me permettra du coup d'appeler getMe assez souvent pour récupérer une instance de user sans avoir forcément besoin de refaire une requête sur le graphe, puisque mon profil il change pas toutes les 30 secondes. Allez hop, je vais vérifier si j'existe ou non. Alors ça évidemment, comme c'est la première chose que l'on va faire quand on va s'authentifier, ça sera toujours vérifié. Mais peu importe. Et là, juste pour que ce soit bien clair pour tout le monde, je ne vais pas appeler cette variable local me. On l'appelait userMe, comme ça au moins ça sera plus simple pour comprendre. Et pareil, pour affecter la valeur, j'appelle ma classe statique.me. Je peux pire directement faire me évidemment, mais encore une fois, dans un souci de clarté pour que tout le monde comprenne bien, je vais l'écrire comme ça. Voilà. Ok, donc on n'oublie pas qu'on a cette e-authentication provider à remplir. Et avant ça, je vais vous montrer la classe user qui fait partie du graphe. Et vous voyez qu'il y a déjà toutes les informations. Il y a des collections, il y a les gens à qui on reporte, le manager, les gens qui dépendent de vous, etc. Bref, et du coup, ma classe user à moi, eh bien, je peux l'enlever. Hein, donc je vais directement supprimer le répertoire puisqu'on n'en a plus besoin. Et maintenant, je vais donc aller modifier un petit peu UserViewModel, qui je crois était la seule classe qui appelait mon répertoire modèle et la classe User que j'avais déjà déclaré avant. Ici, je fais le bon using. Et là, j'ai du bol. Je crois que l'ensemble de mes propriétés de ma classe User précédente match pile poil avec les propriétés de la nouvelle classe User. Bon, j'ai du bol, oui et non, puisque je les avais récupérées déjà à l'époque du modèle du graphe. Donc, les propriétés n'ont pas trop évolué. Donc, voilà, ça me paraît assez classique que ça fonctionne. Encore un petit peu de nettoyage pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis et ça devrait être plutôt bon. Ce que je vais faire ici, là, alors getUserLikeAsync, on va la garder celle-là puisque je vais en avoir besoin pour récupérer l'ensemble des utilisateurs. Donc là, on va faire le using qui va bien. Tout ça, eh bien, ça part à la poubelle. Donc je vais le mettre en commentaire pour le garder. GetMessageAsync, c'était un exemple qu'on avait fait précédemment, j'en ai plus besoin, je l'enlève. On fera d'autres méthodes, vous allez voir un petit peu plus loin, des méthodes de récupération de calendrier. Mais pour cela, ça je veux dire, on n'a pas besoin. En plus, vous avez déjà les exemples dans le module 2, au cas où. Donc, Graph Service, si je reviens dessus, ce fameux e-authentication provider. Ce fameux provider, vous voyez qu'en fait, ce qu'il fait, il appelle une méthode. Il vous demande d'implémenter cette méthode qui va vous passer la requête en paramètre. Et si vous regardez la documentation du graphe, en fait, il vous dit globalement qu'on a besoin de remplir l'entête de la requête avec le bearer. Alors, je vais donc créer ma classe qui implémente cette interface. Donc, je récupère évidemment l'authentification helper que nous avons fait ensemble. Sauf qu'une interface ne peut pas être sur une classe statique. Donc, on va changer notre fusil d'épaule. Notre classe authentication helper ne sera plus une classe statique, mais on va en faire une classe classique. Et moi, ce que j'aime bien dans ces cas-là, c'est faire un singleton. Donc, on va se faire un petit singleton à la papa pour pouvoir utiliser une instance unique quand on en a besoin. Et si jamais j'ai besoin de déclarer une nouvelle instance, j'aurai toujours la possibilité. Pour être très clair, hein, je fais rarement des classes complètement statiques. Je fais très très souvent, voire tout le temps, des singletons. Je trouve, et c'est un avis personnel, que c'est beaucoup plus facile de gérer un singleton que de gérer une classe statique. Et on a beaucoup plus de possibilités. On peut gérer le cycle de vie, on peut faire beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est une petite astuce à moi qui n'a rien à voir avec le cours d'aujourd'hui, mais c'est toujours bien de le dire. Alors je crois que dans un module sur le C#, je crois que c'est le module numéro 2. Le cours numéro 2, on en parle, le singleton. Bref. Allez, je continue à modifier un petit peu tout ça. Donc ça ne m'empêche pas quand même de garder des classes statiques, notamment pour récupérer. Non, ça je le changerai plus tard. Bon bref. Donc ici, on va donc implémenter cette fameuse interface, vous voyez, qui me passe la requête en paramètres. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il faut que l'on rajoute dans l'entête eh bien, ce fameux bearer. C'est vraiment la seule chose que nous demande le SDK finalement. Elle nous dit j'ai besoin pour pouvoir eh bien, faire mes requêtes sur le graphe que tu me passes le fameux bearer. C'est la seule chose que je te demande. Donc à nous d'implémenter ce qu'il faut ici pour récupérer ce token. Et vous vous doutez bien que ça, on l'a déjà fait. Hein. C'était donc le get access, c'est le get access token async qui est donc une méthode qui est juste au-dessus. Eh bien, on va l'appeler tout bêtement. Donc get access token async. Rien, c'est un await. Hein. On est d'accord. Get token access async. Et donc là, je vais donc vérifier que mon résultat ne soit pas faux. Ah, j'ai un petit souci. Qu'est-ce qui se passe? Ah, bah oui, c'est parce que ma classe. Alors, c'est parce que j'ai pas mis un 5, évidemment. Comme d'habitude, les erreurs les plus stupides. Donc je vérifie que mon statut soit success. Et s'il est success, à vous encore une fois de faire une remontée d'erreur correcte. Si jamais il n'y a pas de souci, il y a un problème, de gérer ça avec un cancellation token. Encore une fois, c'est vraiment une bonne pratique. Je ne le fais pas ici, mais on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans un cours consacré au sujet. Allez, je mets le code. Donc le code, je récupère ça du authentication result. Est-ce que je mets le status code? Je crois que j'ai une erreur aussi qui remonte. Alors en plus, c'est pas compatible. Donc allez, on va prendre l'erreur plutôt. Erreur description et au-dessus, on va mettre l'erreur. Voilà. Allez, ça sera plus simple. Et ici, il y a un système différent. Donc si je suis en success, évidemment, je vais rajouter mon token. Et voilà. Voilà ce que c'était que de remplir ce petit morceau de code dont a besoin le SDK. Donc ici, je vais donc passer. Alors du coup, on va utiliser notre singleton. Hein. Donc on va utiliser le current. Hein. J'aurais pu faire un new, c'était pareil, mais pourquoi pas passer comme ça. Un peu de nettoyage puisque maintenant on a viré le répertoire modèle. Donc j'ai plus besoin d'appeler le complet, le namespace complet. Voilà, puisque user maintenant il n'y en a plus qu'un seul. Donc voilà qui est fait. Get access token, il est ici. Je l'ai mis. Alors, du coup, je vais donc les mettre non statiques. Alors là, évidemment, je me plante. Il faut que j'enlève statique et je mette à 5, mais pas et pas l'inverse évidemment. Voilà qui est fait. Donc là, je pense que je suis bon pour l'URL de redirection et de logout, pas besoin, je peux les laisser en statique, il n'y a pas de souci. Donc maintenant du coup comme j'ai viré toutes les classes statiques, eh bien je vais refactoriser un petit peu mon code pour avoir ce qu'il faut. Donc là je vous propose qu'on récupère le singleton et de ne pas récupérer le getAccessToken, mais de faire un premier appel à getMe pour justement récupérer mon profil utilisateur. Donc avant de faire ça, je vais aller encore modifier ici sur le disconnect. Évidemment, appeler le getCurrent. Voilà. Donc tout ça, c'est un petit peu refactoring, hein, c'est un petit peu rébarbatif, mais quand on migre en code, évidemment, on a toujours cette phase un petit peu réparative à faire. Donc je pense que je suis pas trop mal. On va pouvoir tester. Je vous propose de mettre un point d'arrêt ici et évidemment un point d'arrêt ici sur le GetMe pour voir comment ça se passe. Ce sera déjà un bon premier test, voir si l'implémentation de notre SDK Graph et de notre Authentication Provider fonctionne. Et c'est parti. Je me log. J'ai un point d'arrêt. Alors j'ai même deux points d'arrêt. Voilà, j'appelle le graphe. Donc là, l'AMIR de Adal arrive, donc ça me paraît pas mal. Donc je m'authentifie évidemment et je récupère l'ensemble des informations. Allez, un deuxième point d'arrêt pour être sûr que tout le monde voit bien. Et voilà. Donc là, j'ai récupéré mes informations. Alors, j'ai pas toutes les informations parce que j'ai pas donné toutes les autorisations depuis le manifeste, depuis maintenant Office 365 pour récupérer toutes les informations, mais j'ai les principales qui sont au minimum le nom et l'adresse mail, ce qui me paraît pas mal. Donc ça fonctionne, on va pouvoir continuer la migration et maintenant passer aux autres méthodes qui sont récupérer les utilisateurs et récupérer les photos. Alors, récupérer les utilisateurs, c'est ici. Donc on enlève tout ça. Encore une fois, c'est du code que vous avez dans le module 2, donc pas la peine. Et là, vous allez voir qu'on va aller assez vite, hein, puisque c'est maintenant à peu près toujours la même chose, hein. On génère la requête via le SDK, qui nous donner chaque fois eh bien, des objets, des propriétés qu'on va pouvoir attaquer, sans avoir besoin de s'embêter à générer la requête avec des HTTP clients. Alors, on n'est pas encore à un niveau, pour ceux qui connaissent, on va dire linkable, où on peut faire des where, des select, etc. Puisque on est un petit peu plus limité sur les requêtes, mais ça c'est le graphe qui limite et pas le langage. Hein. Donc aujourd'hui on ne peut pas encore faire un where sur le request. On verra qu'ici vous n'avez pas de where, donc on est obligé d'appeler un filter. Et là par contre il faut encore un petit peu connaître la syntaxe du graphe. Donc ici il faut qu'on continue à utiliser le start with qui permettra eh bien, on va dire de filtrer les informations du graphe en utilisant eh bien, un paramètre qu'on va lui passer et que vous vous doutez qui est donc l'ID qui nous arrive de l'interface utilisateur. Voilà, donc effectivement pour l'instant aujourd'hui on est encore obligé d'utiliser ce genre de syntaxe sans pouvoir eh bien, appeler tout en mode link. On veut savoir, c'est pas non plus la mort. Hein. Donc là j'ai ma query et je vais donc la parcourir pour récupérer l'ensemble des utilisateurs. Alors, vous voyez que User Query, pourquoi est-ce que j'appelle ça User Query? C'est parce qu'en fait, on n'a pas l'ensemble de tous les utilisateurs, on a une page courante. Et donc, des pages, vous pouvez en avoir plusieurs, il va falloir les parcourir. Donc, c'est pas des. Là, je n'ai que 10 utilisateurs. Et vous avez Next Page Request qui vous donne la prochaine page, la requête sur la prochaine page à utiliser si jamais il y a plus de X utilisateurs. Alors, je ne sais pas combien se limite la page en cours. Je crois que c'est une vingtaine. Et donc, j'ai fait un copier-coller d'un petit morceau de code qui dit globalement, eh bien, tant que il me reste des pages à lire, eh bien, je vais les lire et je vais remplir une liste d'utilisateurs. Voilà. Donc, un petit morceau de code que vous pouvez utiliser chaque fois que vous avez besoin, vous savez que vous n'avez pas, que vous avez plus d'un élément à récupérer, ou en tout cas plus d'une dizaine, eh bien, faire attention à ça. J'enregistre, j'encapsule tout ça évidemment dans une exception que l'on doit absolument catcher. Encore une fois, je me répète, je sais, mais il est beaucoup mieux d'utiliser un cancellation token et de faire une remontée d'exception correcte plutôt que de faire un debug.WriteLine. Encore une fois, ce n'est pas le sujet du cours, c'est juste l'idée, c'est vraiment de vous montrer comment ça fonctionne dans la manière la plus simple. Donc, j'ai qu'à mettre un point d'arrêt ici au cas où, et on va pouvoir tester tout ça. Je mets un point d'arrêt au démarrage et on va lancer l'exécution. C'est parti. Donc là, je me log. Donc on a déjà vu la première partie. Hein. Donc quand j'étais déjà logué une première fois au premier exemple, pas de mire d'authentification. Donc là, je récupère l'ensemble des pages. J'ai donc une page et si je regarde bien, je n'ai pas de next page request puisque je n'ai que 4 résultats. Donc je parcours mon petit algorithme de base et je récupère. Alors j'ai encore les photos parce que Get Photo Async eh bien, continue à fonctionner. Hein. Ce n'est pas parce qu'on a utilisé le graphe qu'on ne peut pas utiliser eh bien, du HTTP client classique, hein, c'est finalement la même chose, si ce n'est que l'un est wrappé dans l'autre. Donc, bien à moi d'utiliser encore soit du HTTP client, soit du Graph. Je vous conseille évidemment, on est bien d'accord, de tout migrer pour utiliser la stack du Graph. Hein. Donc, justement, en parlant de GetPhotoAsync, ça va être intéressant. Vous allez voir que GetPhotoAsync est un petit peu particulière parce que quand on récupère une valeur, il faut aller récupérer le $value pour récupérer la photo et pas juste slash photo. Ce $value, eh bien, c'est le contenu et ce n'est pas l'ensemble des informations de la photo. C'est vraiment le stream de la photo qui va nous permettre de l'encapsuler dans une bitmap image. Donc, finalement, c'est un peu la même chose. Alors, je le mets en commentaire pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Hein. Que l'on a besoin de récupérer le dollar value et non pas juste le slash photo. Et quand on fait un greffe service slash mini slash photo, il ne va pas rajouter dans la requête générée le dollar value. Donc il va falloir qu'on gère ce cas-là et vous allez voir que ben, c'est assez simple parce que le graphe évidemment a été eh bien, imaginé dans ce sens pour nous simplifier la tâche. Donc si je fais cette requête-là, greffe service point mi. Alors, au point user, parce qu'évidemment, on va récupérer un user. Alors là, vous voyez, quand le user, je peux y passer un index, un indexeur, on va dire, qui va donc générer une requête qui va faire slash user, slash le nom de l'utilisateur, slash photo ici. Et si je fais un request.getAsync, je vais récupérer les informations de la photo, mais je ne vais pas récupérer sa valeur, son stream. Il ne va pas générer le dollar value de ma requête. Okay, donc ça, c'est important de le savoir. Donc là, globalement, qu'est-ce qu'il va me récupérer? Il va me récupérer le nom de la photo et ses dimensions. Ce qui est intéressant, hein, mais pas ce que je veux. Donc ça, ce sont les informations de la photo. Maintenant, je vais vous montrer la même chose, mais pour récupérer la photo avec le dollar value, eh bien, tout simplement, au niveau de la photo, vous avez une propriété qui s'appelle content, qui va donc rajouter le dollar value pour moi. Et après, je fais un point request, point getAsync. Voilà, c'est vraiment très très simple. Pas besoin de s'embêter à connaître la syntaxe, savoir qu'il faut rajouter un dollar, etc. Eh bien, le SDK va le faire pour moi et c'est exactement ce dont j'avais besoin. Donc là, je vais laisser la première requête pour bien vous voyez la différence, mais la première requête, on n'en a pas besoin, hein, on est bien d'accord. Hein. Voilà le photo stream. Je vais faire vite fait un copier-coller de comment est-ce qu'une fois que j'ai récupéré ce stream, comment est-ce que je fais pour le gérer. C'est un tableau de bytes que je lis avec un stream. Alors évidemment, sur le copier-coller, il faut que je mette ce qu'il faut. Donc c'est un stream que je lis et qu'ensuite j'intègre dans un bitmap image. Vraiment rien d'exceptionnel. J'ai pris la bonne habitude de gérer les exceptions même si ce n'est pas le top du top. Et voilà. Donc finalement c'est la même chose. Hein. On a juste vu que la différence par rapport au getMe ou au getUser, c'est juste cette façon de rajouter un point content. Hein. Je vais virer la gestion du cache pour pas qu'elle aille chercher les photos dans le cache, pour que vraiment il passe dans la requête. Voir et je le remettrai après pour vous montrer comment ça fonctionne. Allez, on exécute. Voilà qui est fait. Donc voilà ici, donc je vais rajouter, donc je vais faire une recherche là. Évidemment, voilà mes requêtes. Alors, comme je suis en asynchrone, je vais avoir les points d'arrêt qui vont se défiler sans passer à la ligne suivante, mais c'est pas grave, voilà, je vais y passer à un moment donné. Vous voyez que sur le photo info, eh bien, j'ai des informations qui sont donc eh bien, son ID et sa taille, mais ce n'est pas ce que je veux. Hein. Moi, je veux vraiment récupérer le stream. Donc, je vais pouvoir le récupérer avec le point content qui est là. Et voilà. Donc, là, cette fois-ci, sur le photo stream, j'ai bien un stream que je peux lire et que je peux affecter dans un tableau de bytes. Et après, faire ce que je faisais exactement comme je le faisais tout à l'heure. Voilà. Et voilà, ici, j'ai mon bitmap qui est rempli. Et du coup, on va terminer l'exécution et vous allez voir que ça fonctionne. Voilà, j'ai bien les images qui ont été récupérées grâce au SDK Microsoft Graph. Donc, c'était un deuxième exemple, hein, un deuxième exemple de comment est-ce qu'on fait pour faire des requêtes en changeant un petit peu la manière habituelle et en rajoutant la propriété content pour avoir, eh bien, le contenu de ma requête, notamment pour tout ce qui est gestion des photos. Alors, ici, pour aller un petit peu plus vite, j'ai déjà eh bien, fait pas mal de choses. J'ai rajouté une vue ainsi des vues modèles pour récupérer l'ensemble des événements de mon calendrier. Donc j'ai déjà un petit peu codé pour encapsuler tout ça. C'est pas l'intérêt, c'est pas de vous montrer ce code-là, vous le retrouverez. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de vous montrer comment est-ce qu'on va implémenter eh bien, ce get event. J'ai même fait déjà la view model qui correspond à un événement. Et vous allez voir que j'ai juste caché le constructeur et qu'on décommentera après. Donc j'ai fait la liste des événements et ça me permettra aussi de vous montrer comment est-ce qu'on fait pour ajouter et supprimer des éléments du graphe avec le add event et le delete event. Donc là je vais créer la méthode qui va récupérer les événements. Donc on ne change pas son fusil d'épaule. Hein. Toujours pareil, méthode statique qui est une tâche qui va me renvoyer des events. Encore une fois, la classe event, j'ai créé le vue de la classe event, mais la classe event elle-même existe et elle fait partie du graphe. Et là, vous allez voir que ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu tout à l'heure. Je crée un graph service et je vais faire eh bien, ma requête classique. Sauf que vous allez voir que ça va un petit peu changer. C'est pour ça que j'ai pris les événements, parce que c'est intéressant de vous les montrer. On va regarder un petit peu plus loin à quoi ça ressemble. Vous allez voir que quand on récupère des événements, eh bien, il y a quelque chose qui change un petit peu. Alors, mais avant tout, eh bien, on va créer eh bien, le calendrier. J'appelle ça une calendar view parce qu'effectivement, la méthode qu'on va appeler se place sur ma calendar view. CalendarView.request et je vais faire ici un .getAsync. Et lorsque vous allez exécuter cette requête, eh bien vous allez voir que ça ne va pas fonctionner. Pourquoi? Parce que eh bien, il manque quelque chose. Et pour ça, je vous montre directement sur la documentation. Lorsque l'on va, alors ça évidemment, il faut l'avoir vu. Hein. Moi, je me suis fait avoir une fois. J'ai exécuté, ça ne fonctionnait pas. Je suis allé voir la documentation. Et quand on voit le calendar view, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il faut absolument passer en paramètre une start date et une end date. Ce qui peut être. Ce qui est obligatoire, donc je suis obligé de le passer. Et donc il va falloir gérer ce cas-là. Et heureusement, eh bien c'est pour ça que je reviens sur cette fameuse méthode request. On peut lui passer des options qu'il va rajouter dans l'URL de recherche. Donc ici, je crée deux dates, date de début, date de fin, que je vais formater correctement pour que ce soit compris par le graphe. Donc date de début, c'est maintenant, et date de fin, c'est un mois plus tard, hein, que je mets au format UTC. Et là, je crée des query options, qui va donc être le nom de la query et sa valeur que je vais affecter dans un tableau que je vais passer à la méthode request. Et grâce à ça, eh bien, ça va me générer la requête qui va bien et qui va me récupérer l'ensemble des événements. Voilà. Donc là, du coup, je suis sauvé. Il va le générer pour moi. Encore une fois, je n'ai pas besoin de savoir comment est-ce qu'on fait pour générer ce genre de requête. Il fallait quand même savoir qu'il fallait passer ces deux paramètres. Copier-coller de toujours pareil, comment est-ce que je fais pour récupérer des events et comment est-ce que je les inclus dans une liste d'événements et pas un événement tout court. Et évidemment, vous aurez corrigé de vous-même. Je les renvoie et voilà. Je vais dans mon Event View Model que j'avais déjà un petit peu préparé. Donc mon Next Meeting View Model qui est donc la page, la vue de la page. Et ici, vous voyez que j'ai un constructeur qui prend en paramètre un événement. Je l'avais mis en paramètre, je l'avais mis pardon, en commentaire parce que sinon ça ne compilait pas. Donc là, je vais le décommenter. Et ben, vous voyez ce que je fais, je prends un événement et je lui affecte l'ensemble des propriétés de ma vue que je formate correctement pour qu'il y ait un formatage correct dans ma page. Voilà, donc j'ai fait un petit using vite fait. Et ici, vous voyez qu'ici, j'ai deux méthodes qui sont delete commande et add commande qui vont me permettre eh bien, de supprimer ou de rajouter un événement. Et bien écoutez, ce que je vous propose avant d'exécuter, eh bien c'est de créer ces deux méthodes. Donc là, on passe. Maintenant, on a vu comment faire pour lire des données à partir de le graphe. Maintenant, je vous propose de, eh bien, de faire d'autres parties du CRUD de graphe, c'est-à-dire la suppression. Et après, on verra l'ajout et la modification. Donc là, je fais le delete async que je mets pour l'instant. Je ne vais pas y mettre grand-chose, juste pour que ça compile et que ça ne mette pas ce genre de warning désagréable à l'œil. Et ici, j'ai la méthode ajout-suppression. Donc encore une fois, je vais la décommenter et on va la créer juste pour que ça compile. Et on va l'implémenter juste après. Voilà, donc un peu rébarbatif comme boulot, mais vous avez compris ce que je voulais faire. Donc ici, c'est un événement, évidemment, qu'on passe et pas juste un ID. Voilà, je mets un underscore parce que event est un mot-clé réservé. Moi, je ne suis pas fan des underscores, hein, mais chacun voit midi à sa porte. Si vous aimez les underscores pour les variables privées, ne vous en privez pas. Voilà, donc ici, je fais tout ce qu'il faut pour que mon event soit correctement eh bien, formaté pour l'appel de ma méthode. Et on va implémenter les méthodes de sauvegarde. Allez, je mets un point d'arrêt sur le getEvent pour vous montrer que ça fonctionne. Allez, on exécute. Donc, vous l'aurez peut-être remarqué, quand on a exécuté, j'ai un nouveau menu sur le côté qui est donc Get Event. Voilà, donc là, je ne fais pas de recherche, je vais directement lancer la requête. Donc là, pas de souci, je crée mes query options. Il va donc exécuter la requête sur le graphe. Bien à vous de mettre une trace filler pour voir un petit peu eh bien, ce qui passe, mais bon, ça fonctionne. Et voilà, ici, j'ai l'ensemble de toutes mes rendez-vous. Alors, cet exemple-là, ce sont des rendez-vous de groupe, donc il n'y a pas de photo associée. Et ici, j'ai le détail de mon groupe que l'on va supprimer ou modifier. Voilà, donc ici, j'ai un petit bouton que j'ai rajouté, encore une fois, pour aller plus vite, hein, pour rajouter un événement. Donc, on va implémenter tout ça. Allez, c'est parti. Donc, on va commencer par celui-ci. Donc, celui-ci va être le plus complexe des deux. Et vous allez voir comment c'est simple. Parce qu'il va falloir que l'on sauvegarde ou que l'on. Alors, pardon, excuse-moi. Que l'on insère ou que l'on mette à jour un enregistrement. Alors là, je vais faire le feignant encore une fois. Je vais faire du copier-coller pour aller plus vite. Voilà. Enfin, en une demi-heure, on en fait quand même pas mal de choses. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais. Alors, je ne fais pas de return nul, je fais juste un return tout court. On verra ça plus tard, puisqu'on ne renvoie rien sur le save. Alors, le graphe vous renvoie l'entité mise à jour. Hein, donc, si il y a un insert ou un update, je pourrais la renvoyer pour vérifier que des propriétés n'ont pas changé ou n'ont pas été rajoutées. Bref, je vous laisserai le faire dans vos propres implémentations. Là, ici, je vais juste vérifier que mon événement ID ne soit pas nul. S'il est nul, c'est que c'est un nouvel élément. S'il n'est pas nul, c'est que c'est un élément que je vais vouloir modifier. Donc là, s'il n'est pas nul, je vais donc appeler la méthode d'update. Donc je récupère mon événement.id, évidemment. Et ici, vous avez une méthode sur, après évidemment avoir généré la requête, sur qui va s'appeler update, sur lequel je passe mon event. Voilà. Vraiment quelque chose de complètement simplissime à faire. Autant vous dire que quand on fait ça avec du HTTP client, c'est plus long. Et ici, donc là, je vais récupérer ma liste d'événements. J'ai pas d'indexeur à appeler, directement la requête. Et j'ai la méthode add sur lequel je passe mon event. Et voilà, l'ajout ou modification d'un événement. C'était vraiment supra simple. Et là, je vais faire la version utile du feignant, encore copier-coller. Là, j'ai un ID à supprimer. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je suis même pas sûr que mon copier-coller ait été plus rapide que de le faire à la main. Donc ici, je récupère l'index de mon event qui doit exister, ID, et je vais juste appeler la méthode. Attention, delete à 5, et voilà. À partir de là, je sais récupérer des events, je sais les ajouter, je sais les supprimer. J'ai fait à peu près le tour. Donc on va quand même se mettre des petits points d'arrêt pour vérifier que tout ça fonctionne. Et on fait la dernière exécution. Pour voir que tout est en place. Alors, on s'authentifie. Voilà qui est fait. Bingo, liste des events, on appelle la liste. Je vous propose de créer un nouvel événement que l'on va appeler test parce qu'on n'a pas d'imagination. Donc là, vous pouvez rajouter, supprimer, des dates, rajouter des dates de début et de fin. Test ajout event, je sauvegarde, boum, je passe là-dedans. Mon ID est nul, évidemment, je le rajoute et ça fonctionne. Et voilà, terminé. Donc, quand je reviens en arrière, eh bien, j'ai ma nouvelle entité qui apparaît. Je peux la supprimer. Boum, je passe ici, je fais un delete et elle est supprimée également. Et je reviens derrière et voilà, c'est terminé. Emballé, c'est pesé. Ceci termine notre dernier chapitre qui a été sûrement le plus long, qui a duré une bonne demi-heure, mais enfin il en valait la peine. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve bientôt pour un prochain cours.